Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue encore une fois dans cette petite réflexion. Et nous allons tourner dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8. Le livre des Actes, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le titre du message aujourd'hui, Être des témoins. Être des témoins. Alors dans ce texte, il est question de témoins, de témoignages. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui dit à ses disciples, juste avant son ascension, qu'ils seront ses témoins, et ceci à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans un temps d'incertitude que nous vivons présentement, et surtout avec ce qu'on a connu dans dans nos églises, la fermeture des lieux de culte, et encore aujourd'hui, on a quand même une certaine restriction, je dirais qu'une des priorités du chrétien, c'est de témoigner. Combien il est important d'amener l'Évangile aux païens. Surtout dans les temps que nous vivons présentement. Sans le témoignage, l'Église reste fermée sur elle-même. Suivre les réunions du dimanche sur les médias, c'est une alternative. Mais ce n'est vraiment pas la bonne solution pour amener des gens à Christ et encore moins amener des gens à l'Église. Il y a une enquête qui a été faite et il y a des statistiques qui disent qu'environ 98% des chrétiens n'introduisent pas régulièrement d'autres personnes à Christ. J'aimerais qu'on regarde la vie de Jésus. Jésus a rencontré les incroyants là où ils étaient. Il s'est rendu compte de ce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne semblent pas toujours comprendre. On doit être sur le terrain. On doit évangéliser, on doit inviter des gens à l'église le dimanche. Savez-vous que les évangiles enregistrent 132 contacts avec Jésus et des personnes? Et voyez-vous, 6 étaient dans le temple, 4 dans la synagogue, et 122 avec des gens dans la société. Être un témoin. Qu'est-ce qu'un témoin? Qu'est-ce qu'un témoin pour Christ? Premièrement, un témoin, c'est une personne qui a vu ou qui a entendu. Elle ne tient pas son témoignage de certains ouï-dire. Car elle est elle-même témoin de ce qu'elle affirme. Ce n'est pas elle qui fait l'action, mais c'est elle qui rapporte les détails de l'action, entre autres. Les qualités essentielles d'un témoin sont donc fonction de ce qui est attendu de lui. En matière de justice, Un témoin est une personne en présence de laquelle s'est accompli un fait et qui peut l'attester avec exactitude, n'est-ce pas? Dans d'autres domaines, le mot témoin, c'est un terme qui désigne d'autres notions. Un témoin sert par exemple de repère ou de point de comparaison. On peut avoir un appartement témoin, quant à lui pouvant servir de modèle. Une lampe témoin est un dispositif de contrôle ou un voyant lumineux. Mais dans tous les cas que j'ai, dans les exemples que je viens juste de citer, on peut constater que la fiabilité sera certainement la qualité essentielle requise pour un témoin. Et c'est la raison pour laquelle, pour nous chrétiens, Jésus-Christ, c'est le témoin parfait. Pourquoi? Parce que lui a toujours été fidèle à son Père, à sa mission. Jésus était un témoin pour son Père, digne de confiance, qui n'a pas menti, qui était parfait. Frères et sœurs, premièrement, un témoin, c'est quelqu'un qui est fidèle. On le voit dans le 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. Ce que Paul dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi, en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Supposons que les premiers chrétiens n'aient pas été fidèles dans leur témoignage. On ne pourrait pas savoir aujourd'hui ce qu'ils ont rapporté, si c'est la Bible et si la Bible est vraiment vraie. Alors, notre foi se baserait sur des suppositions. Notre foi se baserait sur de l'imagination et même de l'exagération. Au 1er siècle et au 2e siècle, le début de l'Église, il y a eu tellement de témoins dont le témoignage a été scellé de leur sang, des martyrs. Que le mot grec utilisé témoin, le mot grec était martyr. Je le prononce peut-être pas comme faux, là. Ce qui veut dire martyr. Il y a un théologien du 2e siècle, du nom de Tertullien, qui a dit leur sang, en voulant dire le sang des chrétiens, leur sang est devenu la semence de l'Église. Comment ces gens-là, du 1er, du 2e siècle, au début de l'Église, ont été des vrais témoins, des gens fidèles, tellement des témoins fidèles qui sont morts pour Christ. Et ça, quand on lit l'histoire des premiers chrétiens, comment ça a eu un impact sur les gens qui sont venus à Christ après? Comment ces gens-là ont dit « Wow! » Vraiment, leur cause était noble. Ils sont morts pour leur cause. C'est vrai. Dans une des sept lettres aux églises dans l'Apocalypse, on voit dans la lettre à l'église de Smyrne, l'Apocalypse chapitre 2, verset 8, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir, vous aurez une tribulation de 10 jours, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Voyez-vous, sois fidèle. Comment le Seigneur veut que nous soyons fidèles? Il faut que notre foi soit fondée sur quelque chose. Alors, notre foi est fondée sur les témoignages qu'il y a eu, sur l'histoire qu'il y a eu, sur les premiers chrétiens. Et en plus, notre foi est basée sur Christ. Et on sait que la parole de Dieu, la parole de Jésus, c'était quelque chose de vrai. C'était quelque chose de... Christ était fidèle à son Père. Notre foi est fondée sur quelque chose de solide. Donc, pour être un témoin efficace de Christ, premièrement, oui, il faut être fidèle, mais une chose, nous devons d'abord le connaître. L'apôtre Jean a écrit ce qui était au commencement, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. Être témoin du Christ, oui, c'est vrai. Effectivement, il faut être fidèle, mais premièrement, c'est le fruit d'une observation et d'une expérimentation. On peut pas être témoin comme ça sans avoir observé le Seigneur et après ça nous demander ce que nous devrions faire pour lui. Nous observons et nous expérimentons la vie en Jésus-Christ, la nouvelle vie en Christ. Alors nous sommes invités à manifester son amour, à manifester son pardon par nos paroles et par nos actes. Autrement dit, par notre vie entière. Quelqu'un a déjà dit, un disciple ne peut être envoyé que s'il a bien saisi le contenu de l'instruction du maître qui l'envoie. N'est-ce pas? Car sinon, on n'est plus un témoin. Malheureusement, je dirais ce matin que bien des chrétiens sont de mauvais témoins par leurs paroles et leurs actions. Ils ne reflètent pas l'image de Jésus-Christ dans leur vie. Notez bien que le début de l'Église a été construit, a été fondé sur les premiers martyrs. Ces gens-là sont morts pour la cause. Est-ce qu'on serait prêt à aller aussi loin? Est-ce qu'on serait prêt à aller jusqu'au martyr? Est-ce qu'on serait prêt à défendre notre foi en Jésus-Christ, notre foi en Dieu et en son Fils? Est-ce que, avec ce que nous vivons, le temps d'incertitude, dans cette période pré-tribulationniste, aurons-nous un temps où témoigner sera quelque chose d'ardu et impliquera des conséquences? Est-ce que ça va aller plus loin? Les églises vont refermer, les églises vont peut-être être, je ne sais pas, dans certains pays, bannies, et témoigner sera vraiment difficile. Est-ce qu'on sera vraiment des bons témoins? Si nous avons de la difficulté à témoigner aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être dans les temps difficiles? L'élève, je suis en train de parler au Nigeria, Mademoiselle Charibu, qui était élève, qui avait 15 ans, n'a pas été relâchée par Boko Haram pour avoir refusé de se convertir à l'islam. Mademoiselle Charibu était la seule chrétienne parmi les 110 filles enlevées en février, dans un mois de février, dans une école de Dapchi dans l'état de Yobe, dans le nord du Nigeria, il y a quelques années. Quelque temps après, Boko Haram, pour ceux qui ne connaissent pas Boko Haram, c'est un rebelle qui est très connu au Nigeria, qui enlève du monde, des gens, des enfants, et qui demande des rançons. Alors, quelque temps après, Boko Haram a libéré toutes les filles enlevées, à l'exception de cette demoiselle Charibu, qui refusait de renoncer à sa foi chrétienne et à la conversion à l'islam. Parce que ils avaient obligé les filles à se convertir. L'adolescente qui a refusé de renier Jésus sera esclave à vie, annonce Boko Haram. Voyez-vous ce qu'elle a fait pour sa foi? Je ne peux pas dire aujourd'hui qu'en est-il devenu, je n'ai pas fait de recherche. Mais qu'est-ce qu'elle a? Quel témoin pour Jésus? Alors, être fidèle, oui. Observer le Seigneur et expérimenter la vie en Jésus-Christ qui nous transforme. Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est vous qui êtes mes témoins, déclare l'Éternel, ainsi que mon serviteur, celui que j'ai choisi, afin que vous sachiez, croyez et reconnaissez qui je suis. Avant moi, jamais aucun Dieu n'a été formé, et après moi, jamais aucun autre n'existera. C'est moi, moi seul qui suis l'Éternel, et il n'y a aucun sauveur en dehors de moi. Dans le livre d'Ésaïe. Alors ça, c'est Ésaïe 43. C'est un appel qui s'adresse en premier lieu au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, qui, malgré l'alliance qu'il avait faite avec Dieu, qui était devenu aveugle et sourd, spirituellement parlant, naturellement, incapable de discerner la volonté de Dieu pour lui. Non méritant. Puis les peuples qui étaient alentour du peuple d'Israël n'ont pas eu cette révélation de Dieu. Alors eux autres étaient incapables de pouvoir annoncer les événements à venir et être témoins. C'est certain qu'ils ne connaissaient pas Dieu. La seule personne qui pouvait être, témoins, c'était le peuple d'Israël. Alors qu'est-ce que le prophète est en train de dire? Dieu dit, c'est vous qui êtes mes témoins. Ainsi que mon serviteur, le prophète, celui que j'ai choisi afin que vous sachiez, croyez et reconnaissez qui je suis. Il dit, c'est vous qui allez me faire connaître aux nations. Et en même temps, c'est le prophète qui va parler de moi, qui va vous parler de moi. C'était une remontrance qu'il faisait au peuple d'Israël. C'est vous qui êtes mes témoins. Pourquoi? Pour justement annoncer le seul vrai Dieu aux nations païennes. Parce que dans ce temps-là, les nations païennes, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une foule de dieux. Et Dieu voulait leur parler. La seule façon de leur parler, de parler à ces gens-là, à ces nations-là, c'était par la bouche des Israélites. Vous êtes donc mes témoins, déclare l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis depuis le début et personne ne peut délivrer qui que ce soit de mon pouvoir. Alors, comme Israël était mandaté pour faire connaître Dieu, l'Église aujourd'hui, on a le même mandat. Nous sommes invités à proclamer haut et fort le Dieu d'Israël, le Créateur souverain de toutes choses. Écoutez là, c'est quand même Dieu. C'est quand même lui qui a tout créé, qui a créé la terre, qui nous a créé, qui a créé l'univers. Et lui dit non, moi je suis prêt à aller voir, je suis prêt à donner la vie aux nations, mais je vais le faire par vous. Vous allez être mes témoins. Comment le peuple d'Israël n'a pas pu comprendre et aller vers les nations. Alors qu'ils avaient vu des miracles, qu'ils avaient vu des choses que Dieu avait faites pour eux. Et nous qui sommes arrivés à la fin des temps, comment qu'on a toute la révélation, plus qu'Israël, la révélation qu'on a, la Bible qui est complète, nous avons des livres de théologie, nous avons notre expérience, le Saint-Esprit qui habite en nous, qui nous révèle les choses de Dieu, notre expérience chrétienne. Comment, à plus forte raison, nous devons témoigner? Annoncer le salut au monde. Surtout dans un temps, les temps n'ont pas changé. Les gens ont encore d'autres dieux. Les gens parlent de force cosmique aujourd'hui. D'une force, surtout dans le Nouvel Âge. Les gens, des bonnes étoiles. Comment on peut entendre de personnes dire « Ah, j'ai une bonne étoile ». Comment les gens s'inventent des dieux imaginaires? Un bon témoin ne ressemble pas à un vendeur. On n'est pas là pour vendre quelque chose. On est là pour, comme un poteau indicateur, pour donner la bonne direction aux gens. À être témoin de la bonne nouvelle. Comment quand on regarde dans Matthieu 24? Matthieu 24, verset 14. Matthieu 24, verset 14, nous allons tourner. Matthieu 24. Où il est dit, chapitre 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Écoutez là. On est dans Matthieu 24. Matthieu 24, c'est lorsque les disciples demandent aux apôtres, demandent à Jésus, qu'est-ce qui va arriver? C'est quoi les signes de ton avènement, puis la fin des temps? Écoutez, là, c'est la fin des temps. Là. Il n'y a plus rien après ça. Là. Après la fin, qu'est-ce que Jésus dit? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. C'est d'être encore des témoins. Cette bonne nouvelle sera prêchée. Vous serez mes témoins. À toutes les nations, ça n'a pas changé ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament, tu l'as dans le Nouveau Testament. Il dit la même chose. Ce qu'on fait, l'Église, tout ce qu'on va faire, la bonne nouvelle de l'Évangile, nos vies, nos œuvres, va servir de témoignage à toutes les nations. Puis après ça, il n'y a plus rien. Comment c'est important? Il dit après ça, il n'y a plus rien. Ce que je veux, c'est comme Jésus dirait, écoutez, là, ce que je veux, là, c'est un témoignage pour les nations. Après ça, c'est terminé. Comment que ça peut être important? Jésus a dit, il va y avoir des multiples événements à travers le monde, des signes annonciateurs dans Matthieu 24. Et on voit que bien des choses sont en train de se réaliser. Il va y avoir de la séduction, il va y avoir des guerres, des tremblements de terre, des persécutions, il va y avoir des trahisons, des faux prophètes, des sectes, un manque d'amour, un encouragement à la persévérance jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Ça veut dire que ça ne sera pas facile. Et tout ce qu'il raconte, ça ne sera pas facile. Là. Tout ce que j'ai dit, tout ce Et il termine, cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée quand même dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. La proclamation de la bonne nouvelle du royaume dans le monde entier, c'est ce qui est le plus important pour Jésus. La proclamation de la bonne nouvelle, c'est ce qui va faire que les nations vont se convertir. L'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. On sait qu'il est venu en sauveur, mais il va revenir en Seigneur. C'est la bonne nouvelle. Il y a beaucoup de pays, en Afrique, en Haïti, mais dans le continent africain, en Haïti, qu'on peut voir des versets ou des allusions bibliques partout, sur les maisons, sur les voitures, sur les taxis, sur les autobus, des devantures de magasins. On peut voir Dieu capable, Christ vivant, Christ seul espoir, don de Dieu. On voit ça partout. Continent africain, en Haïti, on voit ça partout. Le témoignage, la personne qui met ça. Je me rappelle dans une île que j'avais arrêté, que les gens allaient au port chercher des vacanciers, puis les amener au centre-ville, puis étaient dans des camions qu'on pouvait mettre, des gens d'autobus qu'on pouvait mettre 8, 10, 12 personnes. Puis il y avait un verset en avant du camion, il y avait un verset à l'intérieur. Le témoignage. Écoutez, ces gens-là pouvaient transporter je ne sais pas combien de centaines de personnes par jour. La bonne nouvelle est prêchée partout. Même quand nous allons, je donne un exemple, quand nous allons dans l'hiver en Floride, on voit le dimanche, comment les gens le dimanche, il y a plusieurs églises, comment les gens sont habillés, les gens se rendent beaucoup à l'église. Il y a même des policiers près des grandes églises qui arrêtent la circulation, qui laissent passer les gens à l'église. Comment que ça peut être un témoignage également? La bonne nouvelle qui proclame la royauté de Dieu. Psaume 96, verset 10. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Alors, c'est la bonne nouvelle du royaume. Dieu règne. C'est une bonne nouvelle. Savez-vous l'adage qui dit « pas de nouvelles, bonne nouvelle ». On entend ça souvent. Hein? « Pas de nouvelles, bonne nouvelle ». Mais ça ne marche pas pour l'Évangile. C'est le contraire. Ça prend des nouvelles, c'est une bonne nouvelle. Nous avons une bonne nouvelle à rencontrer, à annoncer. Et Matthieu 24 dit, ce sera prêché dans le monde entier. Partout. S'il y a un temps où que la bonne nouvelle va être prêchée partout dans le monde. Présentement, il y a des endroits qui n'ont pas encore reçu l'Évangile. Mais la Bible est claire. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Alors écoutez, faisons une petite réflexion. Si Jésus dit dans Matthieu, c'est une parole prophétique, quand Jésus parle d'une bonne nouvelle qui va être prêchée dans le monde entier, qui va servir de témoignage, alors viendra la fin. Fait qu'on sait qu'elle va, ça va arriver. Les gens vont entendre, toutes les régions dans le monde vont avoir entendu parler de Christ. Alors si nous, en sachant que ça va arriver, et qu'on on ne fait pas la mission qu'on serait supposé de faire, c'est-à-dire de témoigner, on va à l'encontre de la parole de Dieu. On sait que ça va se faire, parce que Jésus le dit, la bonne nouvelle va être prêchée. Il va y avoir des témoignages au monde entier. Alors, il faut faire partie, on sait que ça va se faire. Quelqu'un qui dit, non, moi, je ne veux pas être témoin. Ouais, mais là, tu ne marches plus avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu dit que cela va se faire. Ce n'est pas une question aléatoire, ce n'est pas une question du bon vouloir ou peut-être on va réussir à prêcher l'Évangile. Non, ça va se faire. On sait que ça va se faire. Alors, faisons part, faisons notre part, puis participons parce que Jésus le dit prophétiquement. Il va avoir un témoignage et tout le monde va connaître cette bonne nouvelle. Tout le monde ne va pas la connaître, mais tout le monde va en avoir entendu parler. Partout, le monde entier. Et si on réfléchit bien, la seule façon, c'est que les gens prêchent, les gens témoignent. Parce que Dieu a choisi la prédication pour faire connaître son message. Dieu ne fait rien sans le travail de l'homme. Dieu ne fait rien sans que l'homme soit comment je pourrais dire donc? Dieu ne fait rien. Il faut que l'homme soit impliqué. Dieu ne fait rien. Dieu se sert de témoin pour montrer sa gloire, montrer sa magnificence, montrer sa royauté. Il se sert de pécheurs comme nous. Dieu se sert de la prédication pour confondre les gens, pour amener les gens à l'Évangile. Dieu aurait pu choisir une autre façon. Pensez-vous que Dieu était à court de... Dieu aurait pu prendre des anges? Savez-vous, si vous lisez le livre de l'Apocalypse, comment les anges sont impliqués dans le message de la fin des temps? Non? Alors, on est certain d'une chose. Le témoignage va se faire au monde entier. Et s'il se fait, c'est par des chrétiens. Alors, il faut être impliqué. Alors, c'est difficile. Comment comprendre qu'il y a des gens qui vont dire non pour être vraiment des témoins de l'Évangile? Romains chapitre 10, verset 14 dit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » Comment voulez-vous que les nations puissent connaître Christ? Sûrement pas dans les nouvelles, sûrement pas dans les médias. Oui, si quelqu'un cherche Internet, il y a des choses, il y a beaucoup d'évangélisation. Mais encore là, dans l'évangélisation, ce sont des gens qui témoignent puis qui prêchent. Romain est clair. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Ils ne croient pas, ils n'ont aucune notion de Christ. Comment qu'ils vont l'invoquer? Et deuxième étape, comment vont croire? Comment qu'ils vont croire si personne ne parle de l'Évangile? Ça prend des gens qui témoignent, ça prend des gens qui prêchent, ça prend des gens qui, justement, des témoins pour Christ. Voyez-vous? Puis prêcher la bonne nouvelle, c'est pas seulement aller dans les missions, en mission outre-mer, ou prêcher la bonne nouvelle, c'est à nos enfants premièrement. Prêcher la bonne nouvelle, c'est à tout le monde. Aux pauvres, aux riches, aux malades, aux personnes emprisonnées, aux écoliers, aux étudiants, aux policiers, aux élus du gouvernement, partout dans notre pays. Il y a un prédicateur à un moment donné à Chicago, le prédicateur de, il y a bien longtemps, D.L. Moody. Puis il marchait dans la ville de Chicago, puis il a vu un homme appuyé contre un lampadaire. Alors, monsieur, le pasteur Moody était un évangéliste, puis il a doucement posé sa main sur l'épaule de l'homme et lui a demandé s'il était chrétien. Le garçon leva les poings et s'écria avec colère « Occupe-toi de tes affaires. » Et M. Moody dit, je suis désolé si je vous ai offensé, mais pour être très franc, c'est ça mon affaire. Même si les gens rejettent l'Évangile, notre rôle, c'est de témoigner. Paul va dire à Timothée, prêche, prends toute occasion pour prêcher dans les moments favorables ou non. Pour servir de témoignage à toutes les nations. Dans le verset que j'ai, Matthieu 24, 14, servir de témoignage à toutes les nations, nation ici dans le texte veut dire ethnie, qui veut dire toutes les races, toutes les ethnies. Pour les nations. Alors, en conclusion, nous avons vu ce qu'était un témoin, puis que nous sommes invités naturellement à témoigner de l'existence de Dieu. Qu'est-ce que 1 Pierre dit, chapitre 3, « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et crainte et ayant une bonne conscience, afin que là même où l'on vous calomnie, ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ soient confondus. » On parle encore plus de témoignages. On parle d'être confronté à des gens, à des personnes. L'Évangile va plus loin. 1 Pierre nous dit pas seulement de témoigner, mais de nous défendre. De nous défendre, de défendre notre position. De ne pas dire, ah ben là, ok, c'est correct, j'arrête de... Non, je ne te parle plus de... non, c'était seulement pour te le dire, là, ben, je m'en retourne, puis il n'y aura pas de problème. Là. Non! Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Par contre, il dit, faites-le avec douceur, avec crainte, une bonne conscience, pas n'importe comment, là. Afin que là même où l'on vous calomnie, calomnier quelqu'un, c'est grave, là. Ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ soient confondus. En voulant dire, faites attention, soyez calme, soyez doux. Défendez-vous, défendez votre point de vue. Mais quand même, ayez une bonne conduite. Parce qu'avec votre conduite, avec la façon que vous allez parler, avec la façon que vous allez témoigner, les gens vont être confondus. Saint Augustin disait « Annoncez l'Évangile en tout temps. » Par des attitudes, des actes, une présence. Comme j'ai dit tout à l'heure, avec crainte et douceur, humilité, respect. Non avec arrogance ou avec le mépris. Tu sais, on est certain de notre vérité, on est certain de ce qu'on dit. On tranche, on juge, on condamne. On se met quasiment à la place de Dieu, là. Quand on est rendu là, on se met à la place de Dieu. Mais il dit avec crainte. Vraiment intéressant. Pourquoi avec crainte? pas craindre l'autre, mais avoir une crainte devant Dieu de ce que l'on dit, de ne pas prendre la place de Dieu et de ne pas dire n'importe quoi, mais avec douceur. Crainte pour un respect, une révérence envers Dieu et avec douceur pour ne pas offusquer les gens à qui l'on parle. Alors, en terminant, c'est évident que nous sommes à la fin des temps. Un temps où l'ennemi va étendre son emprise sur le monde par la ruse et la séduction. Et je dirais plus que même un temps où l'Église risque d'être refroidie par les soucis de la vie. Les soucis de la vie, puis le fait que présentement, les Églises ferment, ouvrent, referment, peuvent pas aller, peuvent pas être à 100%. Et les gens s'y refroidissent, les chrétiens vont se refroidir. Et je crois que si nous avons un temps où il faut témoigner, c'est présentement. Alors qu'on est capable de le faire, on est capable de le d'avoir, on a encore la permission des autorités. Parler de Jésus, un plus. Surtout dans un temps d'incertitude où les gens ont besoin d'entendre un réconfort. Un temps où qu'on entend toutes sortes de choses dans les médias, mais tout le temps des mauvaises nouvelles. C'est le contraire. Qu'est-ce que Jésus a dit à la fin des temps? Il dit, quand vous verrez ces choses, relevez vos têtes. Tu sais, quand on dit à quelqu'un, là, ben voyons, relève ta tête, sois un peu plus fier, t'as pas la tête entre les jambes. Jésus a dit, quand vous verrez toutes ces choses arriver, toutes les dans Matthieu, toutes les signes, toutes les mauvaises choses, les tremblements de terre, les calamités, quand vous allez voir qu'il y a des choses qui arrivent, il y a des mauvaises nouvelles, Jésus a dit, il a fait le contraire, il a dit, relevez vos têtes, votre délivrance approche. Alors, relevons nos têtes, soyons prêts à témoigner encore plus. Parce que c'est un temps vraiment, on vit dans un temps qui est vraiment spécial. On vit dans un temps pré-tribulationniste. On a une connaissance, on a beaucoup de choses qu'on peut proclamer, qu'on peut enseigner, qu'on peut montrer aux gens sur qu'est-ce qui va s'en venir. Alors, c'est un temps de témoignage. Nous devons encore plus témoigner pour l'évangile de Christ. Amen. Amen.